trahi. D'ailleurs, c'est déjà le bon Dieu, quand il a mis 7 jours, il a créé le monde en 7 jours, après il s'est reposé. C'est le principe d'inventer dans les rythmes une cassure de rythme, une brisure de rythme. Et ça, c'est une notion intéressante. Donc là, j'avais fait un livre tous les ans pendant 20 ans. Et je me suis dit, bah tiens, maintenant que j'établis cette règle, je vais pas la respecter. Et il s'avère que je suis tombé sur un manuscrit qui avait envie de prendre 2 ans plutôt qu'un an. C'est celui qui va vous sortir la première semaine d'octobre. Et c'est autre chose, c'est qu'on croit tout contrôler, mais il y a un moment où le livre est comme une entité vivante qui réclame une gestation un peu plus longue. Donc celui qui va sortir en octobre, en fait, est pratiquement un mélange de 2 livres. En tout cas, il y a l'énergie de 2 livres dans un seul livre. Et ça m'intéressait de tester ça.
C'est aussi un gros livre.
C'est un gros livre. Mais ce qui me plaisait avant dans le principe de sortir un livre tous les ans, c'était travailler dans l'urgence. Dans le stress et dans l'urgence, je pense que tu connais ça aussi dans ton travail, c'est-à-dire qu'il y a un moment, quand on sait que l'éditeur vous dit « si tu ne le ramènes pas le 15 juin, ça ne sort pas, ou alors tu dois encore attendre un an », ça vous met une grande pression. Et cette pression-là fait que tout d'un coup, les idées arrivent différemment dans la tête, c'est-à-dire elles sont plus concentrées. Et j'aimais bien cette angoisse-là. Et je me suis dit, bon, essayons de faire un livre dans le confort, parce que j'avais toujours travaillé dans le stress de pourvu que je rende le livre à temps. Et je ne sais pas comment je me suis débrouillé, au final, en fait, j'ai fait un livre plus gros, et je me retrouve exactement avec le même stress. Donc, c'est-à-dire que normalement, j'aurais dû rendre le livre le 1er juin, et là, je l'ai amené ici pour travailler dans le train, parce que donc, je n'arrive pas à tenir mes délais. Donc, à l'heure qu'il est, normalement, ça devrait sortir en octobre, mais ce n'est même pas certain que ça sorte en octobre. Puisque je ne suis pas sûr d'arriver à tenir les délais. Donc, juste la chose, pour répondre à ta question, c'est que d'habitude, je prends 1 an pour faire un livre, là, je prends 2 ans pour faire un livre dans lequel il y aura l'énergie de 2 ans, donc, a priori, qui est plus travaillé, qui est plus construit, dans lequel il y a plus de situations et plus, selon mes critères, plus de richesse. Voilà.
Alors, pour être un petit peu frustrant, on ne va reparler de ton livre que dans 5 minutes. Alors, j'aimerais bien un petit retour sur le livre précédent, Le rire du cyclope.
Oui.
Donc, on parlait, c'était là il y a 2 ans, on parlait d'humour, on retrouvait ton couple de
Isidore et Lucrèce.
Isidore et Lucrèce qui étaient des enquêteurs. Juste avant, il y avait Le miroir de Cassandre qui était au sens premier un véritable livre de fiction et d'anticipation avec une interrogation sur le sens du réel. Et donc, tu as tissé, comme ça, tu as posé un certain nombre de pierres en 20 ans de carrière, comme tu lis un livre par an pendant 20 ans, j'arrive à compter. Et à chaque fois, tu remets en cause un certain nombre d'idées reçues de base, du genre si les fourmis pouvaient parler, si le rire pouvait tuer, si l'avenir pouvait être connu, etc., etc. Et à la limite, tu ne peux pas t'empêcher de dévisser les boulons pour voir si ça tient. C'est un peu ta façon d'être.
Je crois que c'est tous les auteurs de science-fiction. Je crois que tous les auteurs de science-fiction de ma génération ont démonté leur téléviseur. On va commencer par là. Je ne sais pas si c'est ton cas aussi, Jean-Claude.
Oui.
J'ai commencé par démonter la...
Pas le téléviseur de mes parents, qui d'ailleurs ne me l'ont jamais pardonné, personne.
À l'époque, il existait des radios françaises. Et on avait une Thomson du Crété. C'est vous dire si c'est ancien, c'est-à-dire qu'à l'époque, la France faisait de l'électronique et de l'informatique. Et je démontais toutes les machines. Ça m'a toujours intéressé de voir les choses sous forme mécanique ou architecturale. Pour moi, un roman, ce qui m'intéresse, c'est l'architecture et la manière dont fonctionnent les chapitres entre eux, beaucoup plus que les briques, la tapisserie ou la moquette, même si c'est ce que vous voyez quand vous rentrez dans une maison. Vous voyez ce lieu-là, ce que vous voyez, c'est les lampes, vous voyez les lampes, les systèmes de vitraux, mais ce qui me semble le plus intéressant, c'est ce qu'on voit de l'extérieur, voire depuis Google Maps, à savoir, il doit y avoir un chapiteau, il doit y avoir un système qui appuie sur des piliers. Et c'est ce qui m'a toujours intéressé, c'est la structure cachée qui fait que le système tient. Et tout mon travail, l'essentiel de l'énergie, est sur la structure et les piliers. Et ce travail, d'ailleurs, j'ai essayé de le transmettre à travers mes recueils de nouvelles, dont notamment L'Arbre des possibles et Le paradis sur mesure, dans lequel je travaille sur les structures et sur ces mécanismes sur des mécanismes de suspense, c'est-à-dire vous rentrez dans une structure et vous allez être emporté mécaniquement pour arriver dans un point où vous allez être surpris. C'est la base pour moi du travail de romancier, mais pour reprendre le cas de Rire du Cyclope, c'est aussi la base du travail de blagueur. Pour moi, une blague, c'est un tout petit roman. Et l'avantage de la blague par rapport au roman, c'est que la blague, on voit tout de suite est-ce que ça marche ou ça marche pas. Le roman, il peut y avoir un flou où on peut se dire, bon, à la limite, ça marche pas, on se dit, c'est le style de l'auteur, ça marche pas. Mais une blague, c'est quelque chose dans lequel on peut pas tricher. Quand j'ai lu la Agatha Christie et Dictinel, je me suis dit, ça fonctionne comme une blague. On vous envoie sur 10 fausses pistes, et là, il y a un jeu qui est, est-ce que l'auteur va arriver à vous surprendre, sachant que vous-même, vous n'avez pas arrêté à travailler de la tête pour vous demander lequel est le vrai assassin. Et la blague, en fait, de Dictinel, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je me spoil d'un coup, comme ça sera fait pour ses pieds, c'est qu'à un moment, elle fait croire qu'il y a un meurtre, et ce meurtre n'a pas eu lieu. Donc, c'est comme un tour de magie, c'est comme une blague, c'est un truc mécanique qui va faire, vous allez vous dire, à bon sang, je me suis fait avoir. Mais cette chose, cette phrase, à bon sang, je me suis fait avoir, ça m'a l'air le minimum de politesse d'un auteur envers son lecteur, c'est lui fournir une fin inattendue. Et pour arriver à ça, c'est un système de construction, comme les tours de magie, comme les blagues. Et c'est pour ça que je suis aussi admiratif des gens qui racontent des bonnes blagues, et je suis aussi admiratif des gens qui font des tours de magie. Et quand je lis un roman qui n'est juste une suite de phrases qui ensemble font quelque chose de joli, mais qui n'amène nulle part, et où il n'y a pas l'effet de surprise, je me dis, le type n'a pas fait son travail jusqu'au bout, ou alors, il est juste dans un style de forme, mais il n'y a pas de fond, et je me sens souvent frustré. Un bon roman, en fait, émerge à sa scène finale. Jusque-là, c'est une sorte de promesse de scène finale qui doit être explosive. Mais tout ne sert... En fait, j'utilisais une métaphore. Ça ressemble un peu à l'acte d'amour, c'est que c'est une montée progressive, c'est un point climax, et le point climax, c'est dans le gros, la jouissance est maximale.
Et tu sais qu'il y a un écrivain américain qui a dit un bon bouquin, ça commence par un orgasme, et à partir de là, c'est encore mieux. Donc tu vois, il y a des gens qui passent après, quand même.
C'est la femme de cet écrivain qui va être heureuse. Mais oui, mais alors il y a un concept qui est intéressant pour reprendre ça, c'est dans le film Le Prestige, oui. Où il parle de la notion, il dit un tour de magie, j'en reviens encore à la magie, c'est une promesse, une réalisation et un petit quelque chose après la réalisation qui fait qu'on est doublement sur le cul, si je puis dire. Enfin, c'est comme ça que j'ai perçu. Vous avez vu le Prestige ? Il y en a qui voient qu'il y a gauche la tête. C'est tout un travail sur l'analyse des tours de magie et sur le principe de comment on attrape le lecteur et où on l'amène, où on attrape le spectateur et comment on l'émerveille. Parce qu'au final, si je parle et de la blague et de la magie comme base du travail de romancier, en tout cas comme base de mon travail, c'est parce que je crois que ce sont des arts dans lesquels on ne triche pas. Et que on voit tout de suite, quand vous racontez une blague, vous savez tout de suite si l'autre la reçoit, si ça lui ouvre une porte et si ça le fait rire. Vous voyez tout de suite aussi si l'autre se force à rire par politesse ou si vraiment il est scié. Et pour moi, ça m'a l'air des arts honnêtes. Il y a des livres où on ne comprend rien et on se dit le type doit être vraiment très fort parce que pour raconter des trucs où on ne comprend rien à ce point, c'est l'autre plus intelligent que moi. C'est des livres qui snobent le lecteur. Et c'est une littérature que je n'aime pas parce que c'est une littérature qui en fout tellement plein la vue que du coup elle évite son devoir de surprise. La première caractéristique d'un bon roman est de vous surprendre et de vous amener à un endroit où vous allez avoir une jouissance. A fortiori, si après la jouissance vous en avez une seconde, c'est double gain.
Justement, dans le rire du cyclope, ça commence quand même par dans un milieu qui est quand même le milieu des comiques, ça commence par une scène extrêmement dure, ça commence par une mort. Et on se dit, mais ça meurt les comiques ? Et la question, c'est justement toi d'arriver en disant, ben oui, je démonte le machin, je vais vous remonter autrement.
Oui. Alors, les comiques, pour écrire le rire du cyclope, j'ai dû en fréquenter beaucoup. Et de manière étonnante, la plupart des comiques sont des gens assez angoissés, souvent assez tristes et souvent assez déprimés. Et le comique est une manière pour eux de se soigner. Et donc on ne s'en aperçoit pas, mais ces gens qui nous apportent du bonheur en nous racontant des blagues sont des gens qui sont souvent très sensibles et qui peuvent être très très durs. Je vous parlais des morts, comme ça ne va pas créer de problème par rapport aux vivants. Des gens comme Fernand Reynaud, Bourville, Coluche étaient des gens très durs dans le privé. Et ça ne les empêchait pas d'être très légers et, dans leur vie publique. Et je me suis dit, il y a là une matière à des personnages passionnants, parce que certains des gens qui nous apportent le bonheur de rire peuvent s'avérer en fait des salauds, voire des tyrans, voire des gens d'une dureté extrême. Et donc, du coup, pour un romancier, c'est l'idéal, c'est-à-dire la personne qu'on croit hyper sympathique parce qu'elle nous fait rire s'avère dans sa vie privée un tyran domestique, voire un voleur, voire un escroc. Et donc là, j'avais ce personnage donc, du Cyclope, Darius, qui était parfait. Donc j'ai rencontré beaucoup de comiques qui m'ont raconté les petites coulisses du métier. Par exemple, il y a un comique qui me racontait qu'une fois à la fin de son spectacle, il y a un autre comique célèbre. Enfin, lui, il n'était pas célèbre, et il avait une petite salle de 200 personnes, et dans l'assistance arrive un comique célèbre. Et donc, déjà, il commence son spectacle, il a repéré le comique célèbre, et il demande à tout le monde d'applaudir la présence du comique célèbre pour son spectacle, donc en tant que comique moins connu. Et à la fin du spectacle, le comique célèbre vient le voir, et il le félicite, et lui dit « Écoute, j'ai trouvé ton spectacle formidable, mais surtout, il y a 3 sketchs que j'ai trouvé vraiment extraordinaires, et ces 3 sketchs, je les trouve tellement bien que je te les prends. » Et l'autre qui dit « Tu veux dire que tu vas les faire jouer par... Enfin, tu vas les jouer, tu veux m'acheter les copyrights ?» Et « Non, non, je n'achète pas les copyrights, je vais faire les mêmes à ma manière. » Et l'autre qui dit « Quoi, tu veux dire que tu me les voles Non, c'est pas « je te les vole », c'est que l'idée est bonne, toi t'es pas célèbre, moi je suis célèbre, donc si moi je le raconte, je toucherai un plus grand public, et toi tu peux continuer tes spectacles, mais de toute façon, moi les T3 là, je te les prends. » Et l'autre, il est resté comme un con, et puis il a dit bah, « si tu me les voles, je te fais un procès, puis si tu me fais un procès, je te grille partout. » Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le comique célèbre lui a pris ses 3 sketchs, il les a fait, d'ailleurs ces sketchs, vous les entendez tout le temps, vous ne savez pas, mais c'est une suite, vous les entendez tout le temps à la radio, rire et chanson, dans les trucs. Et l'autre a fait un procès, quand il a fait un procès, tout ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est retrouvé blacklisté de tous les médias. C'est-à-dire, déjà, il était à un statut média, mais il n'arrivait pas à décoller. Mais une fois qu'il s'est fait voler, alors là, il était complètement fini, parce qu'en plus, il risquait de contrarier la star. Alors, ces choses-là, je me dis, le public ne le sait pas. Ils ne savent pas que les comics se volent des sketchs entre eux. Ils ne savent pas qu'en plus, les comics sont d'une cruauté énorme envers les autres comics. Ils ne savent pas aussi qu'il y a une masse de comics qui n'ont pas émergé, qui sont prêts à tuer père et mère pour essayer de passer à la télévision ou d'être un peu connus. Et que ces gens-là, par moments, ils n'arrivent pas à bouffer, et que par moments, ils ont une vie vraiment très très dure. Et je voulais parler de celui-là. Vous savez, que ce soit dans le milieu même, tous les milieux artistiques, même le milieu écrivain, il y a ceux qu'on voit et ceux qui sont lus et entendus et vus, mais, et puis il y a toute une masse de moyennes, et puis il y a toute une masse de gens qui essaient, qui voudraient bien et qui n'arrivent pas. Et je voudrais rappeler que dans tous les arts, ce que vous voyez, c'est souvent un tout petit groupe qui a eu beaucoup de chance et qui part souvent et qui a peut-être une légitimité, mais qui ne l'a peut-être pas aussi. Voilà.
Et qui cache peut-être un peu la forêt derrière les
couloirs. Oui, et ce n'est peut-être pas forcément les meilleurs comiques que vous avez, c'est peut-être pas les meilleurs écrivains que vous voyez à la télé, c'est peut-être pas forcément les meilleurs chanteurs, les meilleurs acteurs. Et c'est pour ça que je trouve assez intéressant qu'il y ait Internet qui fasse un contre-pouvoir, parce qu'avec Internet, il y a quand même des artistes qui peuvent juste, sans argent, présenter leur travail et dire « Regardez, je fais ça, si ça vous plaît, vous avez qu'à mettre un like, et puis comme ça, on saura que ça plaît aux gens et ça peut avoir un effet viral. » Et je trouve que Internet est en train de faire un contre-pouvoir à la télévision et aux médias pour laisser la chance à de nouveaux auteurs. C'est pas encore la panacée, mais ça, c'est déjà une voie parallèle de... Une yep. chance d'exister pour certaines personnes qui sinon n'existeraient même pas.
Il y a aussi un festival comme les Imaginales ici, qui d'abord se concentre sur un genre, celui de l'imaginaire, qui passe pas souvent à la télé. Hein, je veux dire, les auteurs qui passent à la télé ne sont pas les auteurs de science-fiction, de fantastique ou de fantasy. Tant pis pour eux, hein, je veux dire, c'est un genre qui est populaire, mais ils ne passent pas à la télé. Et qui aussi a des phénomènes de type coup de cœur. Faire un coup de cœur pour un écrivain, ben, il y a quelques années de ça, le coup de cœur, c'était un dénommé Sir Cédric. C'était quelqu'un qui venait de sortir son premier roman, dont on s'est dit... Il est parti samedi parce qu'il avait un truc au bikini. Alors, on est entre Toulousains, donc on se parle, il avait un truc le soir au bikini, donc il avait un truc à mixer.
Moi, j'ai rencontré ici Sir Cédric, et c'est vrai que c'est quelque chose de complètement nouveau. Ouais. Une littérature gothique assumée qui va très très loin.
Et qui fait vraiment de l'excellent thriller. Mmh. Et ces deux derniers sont des purs thrillers, mais c'est des trucs de très très grand niveau. Et bien ça, c'est un coup de cœur d'un petit festival comme les Imaginales qui dit « Attendez, ce type-là, il y a vraiment quelque chose, suivez-le. » Ça braque un projecteur sur quelqu'un en disant je t'ai dit un peu d'autre. Et c'est formidable parce qu'on peut se permettre dans un festival comme celui-ci d'avoir des stars, de t'avoir toi, et aussi d'avoir un certain nombre de gens qui sont, entre guillemets, au démarrage et dont on dit ben, on les a eus. Il y a eu un certain Philippe Jaworski il n'y a pas si longtemps aussi qui a démarré comme ça avec son premier bouquin. Voilà, ça on peut. Et c'est vrai que ces contre-pouvoirs-là sont importants.
C'est vrai qu'il n'y a pas tant de festivals que ça, c'est aussi pour ça qu'on vient pour les défendre. Il faudrait qu'il y ait des grandes messes de la science-fiction assumées et qui puissent rejaillir dans toute la France. Mais c'était Nancy, ça a été Metz avant, c'est ça?
Oui, ça a été Nancy, ça a été Metz, il y a eu les Imaginales, et puis...
Il y a les Utopiales aussi.
Les Utopiales aussi, oui. Il y en a quelques-uns quand même, parce qu'on a des passionnés. On a cette chance-là d'avoir des passionnés. Des passionnés qui sont comme toi quelquefois, des auteurs qui vraiment sont inlassables à, avec la livre de l'imaginaire, avec tout ce que tu peux faire, qui vendent le genre. Et on a aussi des gens qui aiment ça et qui à un moment donné disent « zut, je vais faire quelque chose ». Ça c'est une aparté, mais par exemple par rapport à ce qui se passe dans le métier du comique, c'est vrai qu'on est un peu dans le domaine du chacun pour soi, alors qu'on a le pot dans nos arts à nous d'être quand même assez collectif. On joue un peu collectif, c'est plutôt bien.
Alors, on joue un peu collectif dans le domaine du fantastique, de la science-fiction, de la littérature, d'imaginaire. Parce que, de manière étonnante, c'est dans cette littérature dite de genre et dite populaire qu'il y a le plus de solidarité et d'entraide, alors que dans la littérature dite blanche, dite littéraire, les types sont tous se considérant comme des vedettes et méprisant tous les autres. Et il y a un réel clivage entre les deux domaines. C'est pour ça que je me sens bien dans cette tribu-là, qui est une tribu aussi dans laquelle, je crois, il y a des règles de chevalerie qui existent encore un tout petit peu.
Attends, si nous, dans les imaginaires, on n'est pas un peu chevalerie, je veux dire, je ne sais pas qui le sera. Bon, écoute, tu as un public qui va quand même, qui a envie d'entendre parler un petit peu de ce dont va parler ton prochain livre. Alors, sans spoiler, parce que tu... Mais qu'est-ce que tu peux nous en dire? Déjà, je peux dire une chose, parce que j'ai un peu la chance, moi, d'avoir jeté un coup d'œil dessus.
Voilà. Je veux dire que tu es pratiquement le seul lecteur pour l'instant.
Mais il y a déjà une chose que je peux dire, c'est qu'il est en train d'être rattrapé par la réalité, et ça, c'est étonnant. Parce que c'est vrai qu'on projette, on fait de la science-fiction, on fait des choses, de l'anticipation, et là, on se dit, ah non, mais quand même, cher ami, vous êtes dans la science-fiction, c'est totalement dingue. Et on se rend compte que, quand on commence à lire les journaux, on voit des petits entrefilets, des petits trucs, on se dit, mais... Attends, ils sont en train de me réécrire le verbère, là. Et c'est vrai, la réalité est en train de te rattraper. T'as encore 3 mois d'avance, mais il faut le sortir en octobre, ton bouquin. Parce que si tu le sors l'année prochaine, ça va être un roman historique.
C'est pas mal, ça va peut-être reprendre cette phrase-là. Oui, j'ai un petit problème, c'est que c'est un roman de science-fiction fraîche, comment dire, dans un futur très proche.
C'est de l'anticipation, tout ça.
De l'anticipation,
ouais. Ben, comme l'a été le miroir de Cassandre.
D'ailleurs, je voulais mettre au début quand on en discutera, je voulais signaler que c'était dans un futur proche, et je sais pas, il faut qu'on donne un conseil là-dessus. C'est dans un futur tellement proche que certains événements que j'ai écrits avant qu'ils ne se produisent se sont produits durant l'écriture. Donc, en fait, Jean-Claude touche un problème, notamment, bon, je peux en mettre un parce que du coup je l'ai enlevé, c'est que j'avais décrit Fukushima, c'était il y a 2 ans, hein. La première scène d'ouverture, c'était Fukushima. Mais je décrivais précisément tout ce qui allait se passer. Et Fukushima se déroule, et je dis, merde,
c'est... Ils m'ont piqué mon scénario.
C'est du présent, enfin, ouais, c'est du futur qui est en train de se transformer en présent, et qui va être du passé au moment où je vais sortir le livre. Et du coup, ça m'a obligé à réécrire le livre en tenant compte de ça. Il n'y a pas que Fukushima, il y a certains événements de politique extérieure qui se sont en train de se dérouler. Alors, tu as raison, j'ai intérêt à me manier. Il s'était passé une chose sur les fourmis. Les fourmis, c'est sorti en 1991. En 1991, je disais, à l'an 2000, il y a une mamie qui dit, en fait, le passage de l'an 2000 n'a rien d'extraordinaire, rien n'a changé. C'est-à-dire, elle dit, avant l'an 2000, il y avait toujours de la pollution, du chômage, il y avait... nous, on pensait que l'an 2000, on aurait des petits avions où on quitterait le balcon pour aller à son travail. Ça n'est pas arrivé. On a toujours les moteurs à explosion. On s'habille toujours pareil. Et la mamie, elle disait, bah, finalement, je suis très déçu. L'an 2000, c'est toujours pareil. Or, quand on a passé l'an 2000, mon personnage qui disait l'an 2000, c'est toujours pareil, bah, on a pu voir que c'est toujours pareil. Donc, du coup, le travail de prospective qui avait été fait en 1991 n'avait plus aucun sens dès le moment où j'ai été rejoint par la... Donc, à partir de là, je fais un peu attention. j'essaie de, d'abord de trouver des informations qui ne se produiront pas même dans 10 ans, mais en même temps, ça parle de ça, ça parle d'un futur très très proche. Alors, c'est un peu casse-gueule, en même temps c'est amusant, et puis ben, tant pis, Nicolas Sarkozy n'est plus président dans mon roman, donc ça va. Il y a la plupart des événements qui sont décrits dessus, pour l'instant, à cet instant T0, ne se sont pas encore produits. Donc, ce que vous lirez en octobre 2012, je l'espère, c'est des événements qui risquent de se produire peut-être en 2013, mais qui, j'espère, ne se produiront pas entre octobre, novembre et décembre. Mais c'est aussi un problème pour tous les auteurs de science-fiction, c'est si on date notre travail, on risque de se faire coincer. Je donne un exemple au hasard, 1984. Je me rappelle l'année 1984, ben on a vu, ben non, il y a des pays où c'est la dictature, mais c'est pas l'Angleterre et c'est pas ce système-là. Autre rendez-vous qui est un peu décevant, 2001, le ciel de l'espace. En 2001, on n'est pas parti à la conquête d'une planète, je crois que c'est Mercure. Dans, oui. Voilà. Donc, là encore, c'est-à-dire, dès le moment où vous mettez une date, le temps rejoint la date. Et votre bouquin, ben on voit, est-ce que vous aviez bien prévu le truc ou est-ce que vous êtes trompé? Et donc, c'est pour ça qu'on a intérêt à pas mettre de date, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus.
Ou à mettre une date assez lointaine, c'est vrai. Oui.
Bah, dans Dune, ils ont mis 11 300, donc normalement, ça laisse un peu de temps. Quoi qu'on 11 300, les gars, regardez, on n'est pas du tout comme ça. Mais il faut voir une chose, que quand on regarde les romans de science-fiction des années 40-50, pour eux, quand ils parlaient de l'an 2000, c'était quelque chose de extraordinaire. Ils disaient que dans l'an 2000, ce monde serait... d'abord, on aurait conquis probablement tout le système solaire et que tout serait extraordinaire. En fait, on est rentré dans la science-fiction parce que l'iPhone, ça n'a pas été prévu dans beaucoup de romans et je dois avouer que ça change quand même la vie. Comment ?
Non, non, justement, les téléphones de Star Trek, ils sont même pas MP3.
Il y a des petits boutons. Cosmos 1999 aussi, je ne sais pas si vous rappelez, les petits engins, ça ressemblait au Bebop.
Ouais.
Ça se voit avec un clapet. Mais voilà, donc c'est vrai, si on veut être tranquille, il faut faire de la science-fiction qui se passe dans 10 000 ans. Et là, même si ce n'est pas exactement comme on l'a prévu, les gens, a priori, ne lisent plus vos livres, donc ce n'est pas grave.
Oui, enfin, on peut dire ça. Mais néanmoins, quand tu construis justement le miroir de Cassandre, qui est un livre, entre guillemets, qui peut parfaitement se passer à notre époque, sauf qu'il y a quelque chose à côté, le résultat d'une expérience qui change tout, mais on se rend compte qu'il y a des espèces de déformations subtiles de la réalité, et puis des années après, parce qu'il a quand même 3 ans maintenant ce livre, on commence à lire des choses en se disant, mais tiens, j'ai lu ça dans le bouquin de Bernard, mais je n'avais pas lu avant. Et on s'aperçoit que petit à petit, on a presque l'impression que la réalité t'a lu, et qu'elle a dit, tiens, c'est sympa comme idée, je vais l'appliquer. Ça fait un peu agaçant. Ça te fait quoi comme effet de te dire qu'il y a peut-être Dieu le Père qui est abonné à tes bouquins, et qui se dit, non, là, le futur, là, non, mais il y a une idée chez Bernard, je vais le mettre tout de suite, là, j'ai pas d'idée, je vais faire un truc comme ça.
Merci, mais non.
J'arrive pas à l'avoir, il a absolument aucun orgueil, cet homme. Pourtant, ça, on dirait, ça serait génial. Tu fais ça à Patrick Poivre d'Arvor, il dit, oui, d'ailleurs, moi-même.
Tu fais ça à Poivre d'Arvor déjà ?
Non, pas.
Non, il y avait un moment, parce que en 1988, j'ai fait l'Empire des Anges, et la première scène, c'est un Boeing qui rentre dans un building, raconté par la personne qui voit arriver le Boeing en face. Et donc, en 2001, il y a l'attentat, et. Du coup, je me suis dit, tiens, j'ai plus une nouvelle d'un bonhomme qui écrit des choses dans son roman de science-fiction, et puis ça se produit, et puis au fur et à mesure, je dis, mince, je vais écrire d'autres choses dans mon roman, parce que si ça se produit vraiment, ça serait quand même très embêtant. C'est-à-dire qu'il se demande si le fait de l'écrire n'a pas une influence sur le réel. Et j'ai écrit cette nouvelle, je me suis aperçu qu'il y a tellement de choses à en tirer, je l'ai mis de côté pour en parler plus tard. Mais le vrai thème de cette nouvelle, c'est la responsabilité de l'auteur, point barre. C'est-à-dire, ce qu'on raconte dans les histoires de petits lutins, de magiciens, de gens qui ont des pouvoirs et tout, c'est posé dans un livre, est-ce qu'on est responsable de ce que ça peut entraîner ? Donc tu disais, Dieu lit mes bouquins. Imagine, je te prends au mot, Dieu, je ne peux rien écrire. Je me dis, mince, d'abord... qu'est-ce qu'il va penser des bouquins, il va trouver ça nul. Ensuite,
Et tu imagines s'il vient chercher une dédicace toi.
Non, on est bloqué. Mais le concept de quelle est notre responsabilité sur ce qu'on écrit me semble un concept vraiment passionnant. Et peut-être qu'on a beaucoup de pouvoir, et peut-être qu'on ne le mesure pas, peut-être qu'on n'est pas assez responsable de ce qu'on écrit. Et toutes ces choses-là, j'ai envie de le visiter dans un roman futur. Mais je crois que le pouvoir d'un livre est bien plus important que ce qu'on croit. Déjà pour une raison, c'est que moi je vais crever, je vais me transformer en viande et en système, en fertilisant pour plantes dans normalement au maximum 50 ans. Et le livre va rester. Donc ça veut dire que le livre a un plus grand pouvoir, c'est comme si j'avais donné naissance à une entité qui a potentiellement un pouvoir immortel, alors que moi je suis mortel. Donc ça veut dire que cette entité immortelle, j'ai intérêt vraiment à la soigner, parce que si elle se met à vivre longtemps et qu'elle n'est pas bien ou qu'elle diffuse des mauvaises idées, ça peut faire du mal, et si elle diffuse des bonnes idées, ça peut faire du bien. Donc il y a une responsabilité de l'auteur par rapport à l'œuvre, mais il faudrait voir ça différemment. Comment dire ? Il y a une responsabilité de savoir quel impact va avoir un livre sur une société, sachant qu'il peut avoir un impact positif, il peut avoir un impact négatif. Et je crois qu'il y a des livres qui mettent les gens mal à l'aise. Quand ils seront lus dans 2000 ans, ils recréeront le même malaise, et d'autres qui peuvent faire du bien, et quand ils seront lus dans 2000 ans, qui vont nous faire du bien. Et nous ne mesurons pas souvent, nous, auteurs, ça. C'est-à-dire, on ne se sent pas responsable, on se dit juste, tiens, on met ça pour rigoler. Ou on met ça parce qu'on se dit, tiens, ça va faire un effet bizarre avec cet autre chapitre. Mais il y a peut-être une réflexion à avoir sur la portée de nos écrits.
Mais tu n'as pas peur que dans ces cas-là, il y ait justement un retour de bâton de gens qui viennent te voir, vous n'avez pas le droit d'écrire ça. Parce que c'est une chose aussi, en tant qu'auteur, on réclame une espèce de liberté absolue de dire, si je veux aller très loin dans mon livre, ou si je veux même faire une expérience de pensée, nos livres sont des expériences de pensée, ce sont des univers dans lesquels on joue à dire, et si, eh ben, à ce moment-là, ça se passerait comme ça. Et est-ce qu'à ce moment-là, il y aurait quelqu'un qui lèverait le doigt en disant, on est désolé Bernard, mais t'es gentil, mais tu vas me faire ça, bisous, s'il te plaît.
Oui, mais normalement, il n'y a que nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes, qui avons des comptes à nous rendre. C'est vrai que n'importe qui peut vous dire, tiens, tel chapitre, je ne l'aime pas, et vous devriez réécrire votre roman. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas accorder ce pouvoir extérieur à quelqu'un de vous dire, vous n'avez pas le droit d'écrire ça. Mais par contre, il faut avoir soi-même une sorte de comportement chevalier Jedi, en train de se dire, ok, chacun de mes gestes peut avoir une conséquence, je réfléchis à sa portée. C'est plutôt un code, la question me permet de redéfinir ça un peu mieux, c'est plutôt un code d'honneur de l'écrivain qui est conscient de la portée de son travail au cas où ce travail diffuse, plutôt qu'un droit accordé à n'importe qui de dire « Attends, ça va pas, tu devrais l'écrire autrement. » Sinon, là, on tombe sur la censure, c'est autre chose. Mais ce code d'honneur, par contre, je trouve qu'il devrait exister. Moi, par exemple, il y a un bouquin qui m'a créé un malaise, c'est « American Psycho ». Vous avez lu ça ?
Oui, Brettis.
Et je rencontre une personne qui me dit « Moi, j'ai lu « American Psycho », ça m'a envie de tuer des gens ». Je me dis, bah tiens, c'est marrant, moi j'ai bloqué, ça c'est rentré en blocage quelque part. Et après, j'ai encore une autre personne qui me dit, moi ce bouquin m'a donné envie de tuer, et une autre. Et alors là, du coup, j'ai continué à lire, et j'ai compris, c'est la manière de parler de l'acte de tuer son prochain, qui, étant dans un monde descriptif et dans un système de l'accumulation de détails, fait qu'au bout d'un moment, on est à l'aise avec le meurtre. Et ça, c'est. Bon, c'est une performance de l'artiste, mais je crois que c'est aussi une responsabilité de l'artiste. Je suis certain qu'il y a des personnes qui, quand ils ont lu ce livre, ont eu le petit plus qui leur a permis le passage à l'acte qu'ils n'auraient pas eu s'ils n'avaient pas lu le livre. À ce moment-là, est-ce que l'auteur est responsable ? Je n'ai pas de réponse. Je dis juste que ça devrait faire partie du code Jedi, qui est, est-ce qu'on ne bascule pas dans le côté noir de la force en abusant du pouvoir du livre ?
Mais moi, j'ai pas de réponse.
C'est un vaste débat.
C'est un vaste débat, je crois qu'on n'a pas de réponse. Et le problème, l'inquiétude que j'ai, c'est que j'entends quand même un certain nombre de groupes de pression dire il faut faire interdire les Harry Potter parce qu'on voit des enfants essayer la magie noire, il faut faire interdire les ceci.
C'est pour ça que c'est pas la censure que je parle, c'est le code d'honneur. C'est un code d'honneur, et ce code d'honneur, il n'y a que l'auteur lui-même qui peut le définir pour lui-même. Mais maintenant, il faut qu'il ait envie de le faire.
Mais il y a une différence, toi, je dirais, par rapport à d'autres auteurs, c'est que tu as un pacte avec ton lecteur, tu as une manière de communiquer avec ton lecteur, de lui fournir de l'information, qui fait que tu sais assez bien ce que le lecteur va ressentir de ton livre. Alors qu'un certain nombre d'auteurs qui n'ont pas cette chance-là, ou qui travaillent différemment, ben, ils ne sont pas nécessairement conscients de tout ce que le lecteur va faire de leur livre. Parce qu'un livre, ça n'existe que quand vous le lisez. Hein ? Toi, tu as écrit ça, mais ça, tant que ça reste debout sur une table, ça n'existe pas. Quand il y a quelqu'un qui le lit et qui, à partir de ça, fabrique l'histoire dans sa tête, à ce moment-là, le livre se met à lire. Donc c'est un travail symbiotique entre toi, le producteur, et le lecteur qui le lit. Et c'est vrai que tu es capable d'être beaucoup plus conscient de ce que le lecteur va ressentir. Tu le pilotes mieux, ou tu lui donnes mieux, ou tu sais mieux emballer tes cadeaux. Mais il y a des gens qui sont
pas lu tes livres. Hein. Quand tes livres, c'est encore mieux.
Oui, mais moi, quand je me lis, je ne me lirai jamais comme un lecteur me lit. Je me lis comme le producteur, je ne me lis pas comme le consommateur. Non, mais
je crois que tous les auteurs de science-fiction ont cette envie,
est-ce qu'on en a le talent ? C'est ça le problème. Toi, ce talent-là, c'est-à-dire cette capacité de mettre en scène les choses d'une manière à ce que ce qui est vu, ce qui est ressenti, c'est ce que tu as voulu provoquer. Non, on l'a pas tous. Hein. Alors, tu as une lisibilité, une limpidité que tout le monde n'a pas.
Alors, la seule chose, c'est embêtant, si tu fais les compliments, je déteste ça.
Bon, je suis désolé, en fait, ça c'est nul.
Ouais, ouais.
En plus, c'est gros. Et alors, pour caler les armoires, c'est pas du tout pratique. Ouais. Pour arracher plein de pages. Enfin,
Non, ce qu'il y a, c'est que moi je travaille en image. Et quand j'écris un livre, c'est un film. Or, l'image, c'est le sens le plus immédiat. Et je pense qu'il y a des auteurs qui travaillent en musique, qui travaillent dans l'audio, c'est la musique des phrases. Il y en a qui travaillent dans les images et il y en a qui travaillent dans les sensations tactiles ou dans les odeurs. Moi, je suis plus dans l'image parce que c'est aussi un goût pour le cinéma et pour. Quand j'écris un livre, pour moi, c'est exactement vrai que si j'écris un film, c'est juste, je vais décrire ce que je vois dans ma tête. Maintenant, ce travail sur le visuel, je crois être perçu par chacun différemment. Il serait intéressant de voir, tu dis que je maîtrise ça, je crois que je ne maîtrise pas du tout. Ce qui serait amusant à faire pour n'importe quel auteur, ça serait de donner à tout le monde à lire un livre, et après on les prend un par un, on leur dit, allez-y, racontez-moi ce que vous avez lu dans le livre. Et je crois qu'on serait très surpris, parce que chaque lecteur a vu une histoire différente. Et même, il y a des moments où on s'apercevrait qu'il y a des lecteurs qui n'ont pas vu la même fin, qui n'ont pas vu les mêmes personnages, et si on les interroge, ils finissent par raconter un truc qui n'a rien à voir avec le bouquin. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, le livre est quelque chose, comme tu disais, qui interagit avec le lecteur, mais l'action du lecteur peut être beaucoup plus importante que le texte lui-même. Et on s'en aperçoit notamment quand on lit deux fois un livre. Il y a des moments, il y a des livres qui vous ont émerveillé, et vous avez un souvenir, une émotion énorme, et vous le relisez 10 ans plus tard, et vous demandez, mais c'est quoi le truc qui m'a plu là-dedans ? Et vous cherchez, et vous ne comprenez pas. Et en fait, si je devais donner la réponse, c'est que je crois qu'un bon livre est un miroir. C'est un miroir où le lecteur va se retrouver lui-même. Le texte ne sert qu'à l'aider à se retrouver. Maintenant, à l'instant T1 où il se regarde et ça crée un émerveillement, et à l'instant T plus 10 où il se regarde, il ne voit pas le même bonhomme. Et du coup, il y a un moment où il se dit « Chouette, hein, c'est un livre de jeunes, et là, c'est un livre de vieux, alors c'est le même texte. » J'ai cet effet, je vais vous raconter ça parce que c'est un déchirement sur Fondation d'Asimov. Je suis en train de relire Fondation d'Asimov, et je ne comprends pas pourquoi ce livre m'avait à ce point chamboulé la tête quand j'ai lu ça. Quand j'avais vu ce livre, ça a été une révolution. C'est-à-dire, je me suis dit, voilà, écrit, tout ce qui m'importe, penser à l'espèce humaine, penser à l'avenir de comment tout va évoluer, vivre avec ses personnages, les crises de Sheldon, tout ça. Mais j'avais adoré ce truc. Je le relis, je trouve que le fait qu'on change tout le temps de personnage fait qu'on est complètement largué, et qu'en dehors du concept de psycho-histoire, le bonhomme ne tient pas très bien sa barque. Je ne sais pas me permettre de critiquer le grand maître, ou alors peut-être c'est ça l'émancipation, c'est le moment où on se permet de critiquer le grand maître. Mais maintenant, je dirais, ce qui m'a plu dans ce livre, c'est ce que j'ai retrouvé, que je voulais écrire déjà en germe, que j'ai vu dans ce livre. Peut-être que des gens auront ça pareil avec les fourmis. Et ils reliront les fourmis, ils se diront, mais qu'est-ce qu'il y avait là-dedans ? À l'époque, j'avais bien aimé ça, maintenant ça me semble nul. Ça fait partie du risque de l'auteur, qui doit être assumé, mais ça fait partie aussi de cette chose qui est, dans le livre, il y a le lecteur, dans le bon livre. C'est-à-dire le bon livre, en fait, le lecteur doit vivre avec les personnages, il ne doit pas vivre avec l'auteur. L'auteur doit disparaître. C'est pour ça que quand tu me dis des choses gentilles, je suis très gêné. Et c'est parce que normalement, nous, on est les montreurs de marionnettes. On montre des marionnettes, mais on ne doit pas nous voir, nous. Et même le fait qu'il y ait ma photo en quatrième de couvre, chaque fois, je demande que ça soit enlevé. Mais bon, c'est pas toujours accordé parce que l'éditeur, lui, pense que c'est mieux. C'est une autre histoire. Mais je crois qu'on doit être derrière, on doit juste dire aimer nos personnages, vivre avec nos personnages, nos personnages sont vivants alors que nous, on va crever. Et quand un bon livre, oui, ça, c'est pas étanche.
Voilà
un travail de structure où le type a merdé. On reconnaît une merde dans la structure au fait que ça prend l'eau à un moment. Vous avez dû tous lire des romans qui prenaient l'eau.
C'est surtout que si l'eau s'accumule là-dedans, à un moment donné, si vous l'effet du truc, on va se prendre une douche. Ça va être intense, là.
S'il y avait une douche, s'il arrivait une douche, on aurait une sorte d'effet de surprise finale, ce qui voudrait dire que l'ensemble de cette conférence fonctionne comme un bon roman. Et donc,
je vois un type s'approcher avec des ciseaux, je vous préviens, moi je cours. Hein. Je fais partie des personnages qui ne restent pas jusqu'au bout pour vivre leur destin.
Mais le concept de miroir me semble très intéressant pour tous les livres. Et je dois vous dire, sur les fourmis, j'avais compris ça en faisant le coup de la cave. Quand je fais le coup de la cave, le personnage dit, ce que j'ai rencontré au fond de la cave, c'est la représentation de ce qui me fait le plus peur. Dès le moment où vous mettez cette chose, cette phrase, vous tombez sur ce qui fait le plus peur au lecteur. Et le lecteur, il a vu son monstre à lui. Et pour chaque lecteur, son monstre est différent. Donc à ce moment-là, on est en force, parce que le lecteur, sans le savoir, a créé une partie du roman. Et une fois que j'ai mis 12 ans à comprendre ce truc, c'est l'idéal, en fait, c'est pas que ce soit l'écrivain, que ce soit le lecteur qui écrive le roman qui lui convient et qui a envie de lire. Et ça, c'est en fait, c'est la plus grande disparition, la plus grande humilité de l'auteur. Mais en même temps, pour moi, le bon écrivain est l'écrivain qui va jouer tout le temps avec l'imaginaire du lecteur et non pas avec le sien. Par exemple, vous dites, il arrive dans une femme qui est sublime. Le lecteur, il voit tout de suite soit sa mère, soit sa femme, soit sa maîtresse, soit son idéal féminin. Il y a une image qui arrive. Si vous dites, elle était blonde avec des yeux verts et avait un petit nez retroussé, c'est pas forcément le fantasme du lecteur. Donc, on est faible. Il y a un moment, il faut jouer avec le lecteur comme partenaire de création et lui laisser une grande place. Quand j'avais donné une conférence en atelier d'écriture, j'avais dit, si vous ne savez pas comment démarrer un roman, démarrez avec cette phrase, il ouvrit la porte et recula de surprise. Dès le moment où on écrit cette phrase, il ouvrit la porte et recula de surprise, en fait, on est déjà dans une dynamique d'écriture. Premièrement, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit quelque chose qui le surprend. À ce moment-là, tout le monde a en tête quelque chose qui pourrait le surprendre. Ensuite, pourquoi il ouvre la porte ? Il aurait peut-être mieux fait de ne pas l'ouvrir, puisque ce qui lui fait reculer surpris, c'est quelque chose de terrifiant. Et enfin arrive la troisième question, c'est qui ce type ? Et dès le moment où on a ces trois questions, qu'est-ce qu'il voit ? Pourquoi il ouvre la porte ? C'est qui ? En fait, déjà, on a envie de donner au lecteur de passer à la ligne suivante, dans laquelle on va apporter progressivement des informations. Mais il ouvrit la porte et recula de surprise, c'est la phrase de dynamique réussie. Et à la limite, si on ne dit pas ce qu'il voit, si on ne dit pas qui il est, et qu'on arrive à tenir 300 pages, eh bien ça veut dire que le lecteur va entièrement écrire le roman. Par contre, il faut écrire des choses sur 300 pages, mais dans lesquelles on ne dit pas qui il est et on ne dit pas ce qu'il voit. C'est le principe aussi d'Alien, là, parce que maintenant il passe Prometheus. Alien, pourquoi ça marchait si bien ? C'est parce qu'on ne voyait pas le monstre. Dès le moment où on voit le monstre, ah, on sait, il est affreux, mais il est identifié. Et dès le moment où il est identifié, ben, on a moins peur. Et d'ailleurs, Alien 2 marche beaucoup moins bien qu'Alien 1, parce que le monstre est identifié. Donc, le travail du romancier consiste à réveiller le monstre chez le lecteur et lui faire vivre avec, en influant un tout petit peu, mais en n'empêchant pas le lecteur de vivre et avec son fantasme sexuel, et avec son monstre, et avec toute la galerie de personnages qu'il a envie de faire revivre, lui-même par rapport à sa propre vie.
Justement, pour illustrer ce que tu dis, je vais lire 10 lignes, les 10 premières lignes du miroir de Cassandre, voyez, pour montrer qu'il fait vraiment comme ça. Première phrase, peut-on voir le futur ? Le jeune homme franchit la porte de fer. Il s'avance lentement et se tient debout sur le bord du sommet de la tour Montparnasse. Sous lui, 210 mètres de vide. Il fait nuit, les épaules palpitent, les bourrasques sont froides et très bruyantes à cette altitude. Il se penche. En bas, au-delà des ténèbres, les voitures circulent comme des colonnes d'insectes lumineux impatients. Vertige glacé. Sur le cadran de sa montre à gousset s'inscrit « Probabilité de mourir dans les 5 secondes, 63%. »
Voilà. Il a ouvert la porte, il va mourir dans 63% de chance. Il est sur le point de sauter. On s'arrête.
Si avec ça, vous n'avez pas envie de continuer, ben, c'est pas la peine de lire Bernard Werber.
En fait, merci, mais tu sais, j'ai pas de mémoire. Donc, au moment où tu l'as lu, le texte, je l'ai pris comme pour le lecteur. Et je me disais juste, il y a quand même le coup du pourcentage. Et je me disais, quel chiffre j'ai mis? Et c'est marrant parce que dans ma tête, ça court à toute vitesse en même temps que vous racontez ça. Parce que je suis très lecteur en même temps. Donc, c'est-à-dire qu'on me raconte mon propre livre, je me fais prendre moi-même. Hein. Très premier. Et je me suis dit, pourvu que je ne me prenne pas sur le chiffre, dont tu parlais. Et quand tu as dit 63%, je me dis, ça c'est le bon chiffre. Je veux dire, pourquoi c'est le bon chiffre? Parce que si j'avais mis 80% ou 90%, ça veut dire, en gros, il va crever. Si je mets 50%, ça veut dire que je n'ose pas prendre de décision. Et si je mets en dessous, ça veut dire qu'il va s'en tirer. Donc, il faut un chiffre qui inquiète un tout petit peu, mais pas trop. Si je mets 75, c'est un chiffre bâtard entre 50 et 100. Et 63, parce que c'est 6, donc c'est quand même proche de 50. En même temps, 3,
c'est presque un tiers de tiers. Ouais, là,
ouais, c'est un truc, c'est une sorte de chiffre d'indéfini. C'est-à-dire, je laisse la possibilité au lecteur de dire, bon, il a passé les 50%, mais il est vraiment loin des 100%. Et voilà, pourquoi cette belle 63%? Je me dis, pourvu, quand tu disais ça, je me disais, bah, quel chiffre j'aurais mis? J'aurais mis entre 60 et 65, pas plus 63. Bon, ce qui veut dire que le cerveau a repris le même chemin qu'au moment de la création, et je suis arrivé au même résultat.
Donc, tu es assez d'accord avec Werber, si tu veux, sur cette façon.
Mais le plus drôle, c'est que, vu que j'ai pratiquement la maladie d'Alzheimer en permanence, quand j'ai revu les fourmis, je me demandais qu'est-ce qui allait arriver au personnage. Et je me fais avoir, mes propres romans, c'est le grand avantage de perdre la mémoire. Alors, je vais vous dire une chose. J'ai eu une discussion avec ce garçon, Jean-Claude Duniac, il y a quelques temps. Et que cette discussion me hante depuis 15 jours. C'est quoi, c'est...
3 semaines.
Et cette discussion, je vais en faire un roman, cette discussion, parce que c'est l'avantage aussi de se faire des copains dans le métier, c'est qu'on s'enrichit mutuellement. Cette discussion, c'est que c'est mon complémentaire cosmique. Vous me voyez tous les deux, mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment découvrir son travail. Et il a un problème qui est le contraire du mien, c'est que moi j'oublie tout et lui il retient tout. Mais il retient tout, c'est-à-dire qu'il se rappelle de tous les instants de sa vie, il se rappelle de tous les visages et de tous les noms. Moi j'oublie tout. Par moments, je ne me rappelle plus des noms des gens de ma famille, je ne me rappelle plus des prénoms de mes amis. Et même le matin, mon propre visage m'étonne. C'est-à-dire, je suis dans un système de rafraîchissement permanent qui commence à m'inquiéter quand même un peu. Alors, pour l'instant, j'arrive encore à parler. Peut-être que dans 5-6 ans, j'aurai réellement la maladie d'Alzheimer. Et dans ce cas, pas réellement, mais ça sera plus avancé. Mais pour l'instant, c'est un terrible inconfort. Et ça me semble... c'est une trouille. J'ai réellement peur d'oublier. Et Jean-Claude me dit, mais moi, ma souffrance, c'est de tout mémoriser. Et j'avais jamais pensé à ça, que tout mémoriser, ouais. C'était un handicap, tout comme tout oublier. Alors, tu peux nous parler de ça un peu?
Ça a été une chose, la discussion était intéressante, parce que, effectivement, il me dit, quelle chance tu as de te souvenir de ça. Et je lui dis, tu sais, me souvenir des gens, alors que même ont oublié, c'est me souvenir de gens qui sont morts. Et je lui ai donné un exemple. J'ai une épouse avec qui je suis depuis 31 ans, donc ça fait quand même un bail. On a vécu des choses extraordinaires. Et un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, elle dit, tiens, je n'ai jamais mangé de truffe. Et là, il y a une espèce de coulée glacée qui me tombe derrière la colonne vertébrale, parce que lorsque je la courtisais, lorsque j'essayais vraiment de la draguer, il n'y a pas d'autre mot, mon père qui était médecin m'avait donné une truffe. Et je lui ai préparé l'omelette aux truffes de sa vie, c'est-à-dire les œufs très frais qu'on va vraiment ramasser au cul de la poule, comme on dit chez nous, qu'on met autour de la truffe pendant 2 jours pour qu'à travers la coquille, la truffe passe. Ensuite, vous râpez la moitié de la truffe, puis vous les coupez en tranches l'autre moitié. Vous préparez votre omelette d'une certaine façon, et vous la roulez, et vous lui servez le soir avant le bien-aimer l'omelette aux truffes de la mort préparée avec les petits rondrales de truffe. Elle vous mange, elle vous regarde les yeux en disant « j'ai jamais rien mangé aussi bon, c'est extraordinaire ». Et 31 ans plus tard, elle ne s'en souvient plus. Et moi, j'ai le souvenir de cette femme que j'ai aimée, à qui j'ai fait la cour et à qui j'ai fait des trucs. Et cette femme-là n'existe que pour moi. Et donc, je lui ai dit, je suis amoureux de quelqu'un, en plus de toi, qui est toi, mais qui n'est plus toi pour toi. Et donc, je suis amoureux de plein de personnes que j'emmène avec moi. Et toi, tu es la dernière. Et bonjour, mais il y en a eu plein avant toi que j'ai aimé. Et ces personnes-là, tu t'en souviens plus. Et donc, j'ai une espèce de collection de souvenirs de gens qui ne sont plus là. Et ben, on apprend à vivre avec, mais c'est pas si facile que ça. Donc tu vois, ça n'a pas de désavantages.
Surtout, tu as une sorte de charrette remplie de souvenirs agréables et désagréables que tu tires et qui doit être très bien. Ouais.
Ben déjà, une chose qui est absolument dingue, c'est d'abord une des raisons pour laquelle je n'ai aucun succès comme auteur, c'est que je ne bois pas. Et je ne bois pas pour une raison épouvantable, c'est que pendant la cuite, je me souviens d'à peu près tout. Ce qui fait que le lendemain matin, j'ai la totalité des souvenirs, y compris ce que j'ai fait à partir de 2h du matin, et que j'aurais vraiment mieux fait d'oublier. Alors vous savez, quand vous l'avez fait une fois, on se regarde le lendemain matin, on regarde, on dit non, ça, on ne va plus le refaire. Ah, ça peut être possible.
Mais je pense que tu as raison, le travail d'oubli est un travail de sauvegarde.
Oui, absolument.
Moi, je sais que j'ai tendance à oublier pour ne pas me rappeler des gens qui m'ont fait des crasses. Parce que je me dis, merde, j'aurais dû me venger, je ne l'ai pas fait par fainéantise, donc j'oublie. Et alors, du coup, je retrouve des gens, ces gens qui m'ont fait, bon, c'était surtout à l'époque où j'étais journaliste aux Observateurs, qui m'ont tiré dans les pattes, et c'était un milieu de crabe, on met un panier de crabe, et j'avais tendance à oublier les vacheries qu'ils me faisaient, pas les vacheries, les petits, les derniers moments, l'article qui saute, qui est remplacé par une publicité, c'est des petits trucs, mais au bout d'un moment, dans une vie de journaliste, ça prend la tête. Et ils étaient toujours surpris que je reste souriant, que je resserre la main, que je ne leur envoie pas. Après, des trucs assez mal vus que faisait la profession. Mais c'est parce que, pour moi, c'était trop fatigant de devoir avoir de la rancune pour les autres. Et je sais pas, je crois que j'ai dû lire ça dans les trucs bouddhistes où ils disent qu'il ne faut pas accumuler des rancœurs contre les autres. Donc j'ai fait ce travail d'évacuation systématique. Tous les gens qui font une saloperie, j'oublie. Et... bon, il m'en reste quand même un peu. J'ai deux ou trois personnes.
Donc faites gaffe, quand même. Très bien, mais bon.
Non, mais il y a un moment où on fait ça aussi pour ne pas avoir à se trimballer des rancunes contre les gens.
On a eu cette discussion, rappelle-toi. Et je t'avais dit que la première chose qu'on apprend quand on a de la mémoire, c'est à pardonner.
Ouais.
Parce qu'on ne peut pas trimballer justement le non-pardon. Donc on a le choix entre oublier et pardonner. C'est mais les deux
acteurs. Ça doit prendre une énergie énorme. Parce que tu dois avoir une masse de gens qui se comporte mal et dont tu t'en souviens.
Pas plus que d'habitude. Puis il y a une chose qu'on apprend, ça aussi c'est une technique, mais c'est vraiment une technique psychanalytique. J'ai eu la chance de l'avoir appris il y a 5 ans, mais sérieusement de l'avoir appris en école maternelle. C'est ce qu'on appelle la réconciliation. C'est le soir, quand on s'endort, on fait la paix avec le monde et avec soi-même. On fait la paix avec les bêtises qu'on a pu faire, et Dieu sait qu'il y en a. Et on fait la paix avec toutes les choses qu'on a pu vous faire, et Dieu sait qu'il y en a aussi. Et on les laisse de côté et on s'endort en ne les emportant pas avec soi. On emporte avec soi les bons moments, les moments de soi dont on est content, les moments de soi où les gens nous ont donné des choses qu'on considère comme précieuses, y compris des choses qui peuvent être douloureuses, hein, on n'est pas des bisounours, et on se réconcilie, et le lendemain matin, on n'y pense vraiment plus. Quand je dis qu'on n'y pense vraiment plus, c'est là, mais on a pardonné.
Écoute, on a développé une idée, mais peut-être que l'inverse est bon aussi.
Ah, c'est à fait. Dire.
Peut-être qu'il faut se rappeler de tout ce qui a été, de toutes les souffrances, et de tout ce qui ne va pas, parce que si on l'a reçu, c'est que ça faisait partie des leçons, et qu'en l'évacuant et en disant « c'est pas grave hein, », en fait, on évacue la leçon qui va avec. Quand la vie nous réserve un moment difficile, c'est pas juste la méchanceté, ou c'est pas la méchanceté de Dieu, ou la méchanceté des autres, c'est peut-être qu'on a quelque chose à comprendre, et qu'une expérience pénible est la meilleure manière pour nous d'avancer. Donc si on l'évacue, on perd le positif. Mais ça sera. On va faire chacun leur roman là-dessus.
On va faire chacun un roman là-dessus.
Et on va explorer cette idée. Mais en tout cas, le thème de la mémoire et de la non-mémoire me semble. Voilà, le genre de problème philosophique. Enfin, c'est là la science-fiction, mais c'est en fait de la philosophie qui est faut-il se souvenir ou faut-il oublier faut-il en vouloir aux autres ou faut-il pardonner et comment vivre si on se rappelle de ce qui s'est réellement passé et, d'ailleurs, comment vivre en supportant le réel. Est-ce qu'on réaménage tout pour notre confort de vie avec les gentils et les méchants? Les gentils en général, c'est nous et nos amis. Les méchants, c'est ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Et on réinvente un monde. Maintenant, imaginons qu'on vous prouve que le monde avec lequel on vit n'est pas le vrai monde. Et le vrai monde, on vous le sert avec les vraies infos et les vraies valeurs. Est-ce qu'à ce moment-là, ce n'est pas aussi complètement déstabilisant? Parce que notre mémoire, c'est aussi une mémoire, c'est comme si on recrit le roman de notre propre vie. Il y a des événements de notre passé dans lesquels on a l'impression qu'on était victime et que l'autre était bourreau. Mais peut-être que si on regarde, on ramène réellement une caméra objective du réel et on vous apercevait que c'était peut-être pas si simple, qu'on n'était peut-être pas la victime et que l'autre n'était peut-être pas le bourreau. Et dans ce cas, il faudrait peut-être redonner une vraie valeur aux événements. Mais ça n'existe pas. C'est le psychanalyste qui doit faire ça peut-être. Mais le psychanalyste n'y était pas. il faudrait imaginer une caméra qui suive toute la vie de la personne, il y a la vie qu'elle croit avoir, et on puisse vous montrer le film de la vie telle qu'elle a réellement vécue, et qu'elle puisse comparer.
Ce serait absolument atroce. Ce serait épouvantable, mais en même temps, ce serait un livre d'horreur absolu.
Et
ce
serait,
oui, d'avoir une espèce de caméra qui dirait, tu sais, tu as l'impression que tu t'es vachement répandu, mais pas du tout. Voilà, il s'est passé ça, rappelle-toi, tu as fait ça, et puis tu as été vraiment mauvais sur ce coup-là. Et puis, de temps en temps, il pourrait y avoir un moment de magie où on dirait, ben, tu crois que tu as raté, mais en fait, tu n'as pas été si mal que ça. Et tu vois, de temps en temps, tu dois relire des pages en te disant, ah là, peut-être que, eh ben, il y a des gens qui vont te dire, ah non, justement, ça... C'est ce qui m'a touché, c'est ce qui est passé. Et je crois que les accidents heureux, tes livres sont remplis d'accidents heureux. Moi, on a fait le travail sur le miroir de Cassandre, je trouvais passionnant. De temps en temps, de détecter un truc en disant, mais ça, c'est absolument génial. Et que toi, tu me réponds.
Tu as été mon éditeur sur le miroir de Cassandre, je
sais pas si. Il y a une fois où il m'a. Enfin, où à un moment donné, je lui ai écrit pour lui dire, voilà ce que j'ai compris de ton livre. Voilà, en plus, toute l'analyse, je dirais, mythique, mythologique, presque mythopoétique du livre, voilà, ce que j'ai senti, voilà, tout ce qu'il y a en dessous, mon inconscient, j'ai trouvé ça extraordinaire pour telle et telle raison, et il m'a répondu, tu me l'apprends. Et je lui ai dit, non, c'est pas possible, on peut pas faire ça sans le faire exprès, et la réponse, si, on peut le faire quand on est Bernard, parce qu'il a un inconscient de concours, et puis, au fur et à mesure, il avance, à la limite, il oublie la raison pour laquelle il a fait ça, mais ça reste, et ça reste, et c'est vachement bien foutu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui vous fabrique un paysage, mais il enterre les fossiles de dinosaures à l'intérieur du paysage sans même y faire gaffe. Et puis à un moment donné, il balance un Indiana Jones au milieu qui dit « Oh, regardez, il y a des super squelettes de dinosaures !» Et on se dit « Waouh, c'est vachement bien fait !» Mais en fait, c'est qu'il a un inconscient qui a tout mis en place. Je ne sais pas comment il fait, mais il est impressionnant pour ça.
Alors, je crois quand même que tous les artistes sont en fait des gens qui laissent parler leur inconscient. Oui. C'est ça qui définit un artiste. Maintenant, c'est complètement juste. C'est que quand je fais le miroir de Cassandre, je ne sais pas pourquoi je le fais. Et que toi, quand tu l'as lu et quand tu m'as servi d'éditeur, tu m'as expliqué des choses que je n'avais pas compris dans mon propre roman. Mais même sur les fourmis, je pense que quelqu'un qui fera un travail d'étude dessus pourrait m'expliquer des choses que, au moment où j'ai écrit, je ne savais pas pourquoi je l'ai écrit, et qui ont pris du sens plus tard. Alors ça, c'est aussi un thème romanesque. Je pense que l'artiste n'est pas forcément la personne la plus à même de parler de son œuvre, il n'est pas forcément la personne qui a le mieux compris son œuvre. En tout cas, moi, je ne suis pas la personne qui a mieux compris mon propre travail. Et le livre que j'écris, tu m'en as parlé, là, celui que je suis en train de trouver actuellement, quand je le relis, je ne comprends pas très bien ce que je veux dire. Et des fois, c'est peut-être aussi des erreurs assez mal écrites. Hein. Mais je sens qu'il y a un sous-entendu et je ne suis pas capable de l'exprimer clairement. Et peut-être que je le comprendrai dans quelques années après sa sortie, voire que je rencontrerai des lecteurs qui m'expliqueront ce que je voulais dire. Mais ça fait partie de l'échange et de la vie. C'est pour ça que ce n'est pas un produit mort, c'est un produit vivant. C'est un produit qui interagit, mais mon produit est un peu dur. C'est une entité. Le livre est une entité vivante qui interagit avec le lecteur et qui échappe entièrement à l'auteur et qui peut être expliqué par un éditeur, qui peut être expliqué par un ami. Et moi, je pense qu'il y a des lecteurs qui ont mieux compris mon travail que je comprends moi-même mon travail. Et ça fait partie de... Ça fait partie du job d'humilité d'auteur. C'est-à-dire on fait un spectacle de marionnettes, mais ce que voient les spectateurs et les acteurs peut être plus intéressant que ce qu'a envie de montrer le monteur de marionnettes.
On va leur poser la question. Tu as tes lecteurs là ici. Est-ce que vous avez des questions à poser à Berber par rapport à ces livres? Je suppose que vous avez un certain nombre parce qu'il va bientôt falloir finir. Si en plus vous voulez lui donner quelques livres à signer en lui courant après. Donc y a-t-il des questions?
J'ai un beau micro pour le public.
Alors, il faut qu'il y ait quelqu'un qui pose n'importe quoi comme question, c'est juste pour donner une information.
Sinon, c'est raté, et moi, on me fait abattre parce que je n'aurais pas été capable. Alors,
s'il vous plaît, quoi,
demandez-lui quelque chose. Quoi. Je ne voulais pas savoir l'heure, enfin, un truc.
Ah,
voilà.
Bon, alors, c'est la date de sortie du prochain livre.
Oui.
Est-ce que quelqu'un a un téléphone avec un agenda dessus? Alors, vous regardez le premier mercredi d'octobre. Vous allez me dire.
Et pourquoi le premier mercredi?
Alors, mercredi, c'est parce que c'est le jour de l'office. C'est-à-dire que le système industriel de l'édition fait que c'est le mercredi que les libraires ont les livres. Il y a peut-être des libraires parmi vous qui pourront expliquer ça. Et pourquoi le premier mercredi d'octobre? Parce que c'est... bon, moi, je tiens mon rendez-vous d'octobre. Et autant profiter du mois d'octobre le plus tôt possible, donc le premier mercredi d'octobre. Vous avez la date?
C'est le 3.
Le 3. Bon, ouais. Ben voilà. A priori, le 3. Mais en fait, vu que je n'ai pas fini, j'ai amené du travail ici. Je vous avais retiré sinon sur mon site bernardverber.com si j'arrivais pas à tenir le délai, mais normalement c'est le 3 octobre. Si Le cochon ne mange pas. Ah, deux questions. Pour l'instant, dans 20 ans de carrière, c'est jamais arrivé qu'il y ait personne qui pose de questions, mais ça m'arrivera un jour, je serais bien embêté.
Bonjour. Si tu te souviens de moi, je l'ai dit plusieurs fois, je t'ai pas fait de grâce.
Je t'en remercie. Je te bourrerai pas la gueule après.
Merci. Je voulais juste savoir si tu pensais retomber sur un rythme d'un ouvrage par an ou si tu allais continuer à prendre un peu de...
Alors, ce livre, le prochain livre, qui pour l'instant n'a pas de titre, parce que l'éditeur tient à se mêler du titre, est un grand enjeu parce qu'en fait, il fonctionne un peu comme nous les dieux, à savoir, il est potentiellement un diptyque, on dit
deux livres. Diptyque, oui, deux livres.
Il peut y avoir une suite, mais je ne veux pas faire la suite si jamais le livre ne marche pas. Donc, si jamais ce livre marche, je pense pouvoir facilement faire la suite parce que il est entièrement bouclé, hein, il y a une chute, c'est vraiment entièrement bouclé, mais il y a une manière de rebondir dessus pour amener un deuxième coup qui me semble intéressant, mais ça va dépendre de vous. Si jamais le 3 octobre je sens qu'il n'y a pas d'intérêt, ou si je sens feedback que le livre n'a pas plu, il faut quand même que je tienne compte aussi du public. Voilà. Et ça, si je fais ce livre-là, là je pourrais assurer facilement le...
En un an, l'avoir en 2016.
Ouais, en un an, parce que j'ai déjà la structure. J'ai déjà la structure et je sais surtout où je veux aller. C'est la grande... Il y a des auteurs qui avancent, ils font un chapitre, et puis ils essaient de se surprendre à chaque chapitre. Et ils arrivent à un moment où il faut boucler l'histoire, et puis ils mettent, bon, ben, finalement, ce n'était qu'un rêve, ils ouvrent les yeux et se réveillent. C'est une technique comme une autre, ou ça peut être, mais c'était dans un jeu vidéo, enfin, il y a plein de variantes. Et vu que j'ai envie de ne pas faire ça, j'écris la fin avant de commencer le début, donc je sais très bien où je vais. Et cette fin, je l'ai pour le deuxième, au cas où le deuxième existe. Donc c'est pour ça que je pense pouvoir tenir le délai après d'un livre par an. Et maintenant, j'ai mon livre sur la mémoire qui serait celui de dans 3 ans ou dans 4 ans. Mais voilà. Entre temps, vous. Comment ?
Si tu t'en rappelles.
Si je m'en rappelle. Vous serez là pour me le rappeler. On parle le site. Hein. Moi, j'utilise beaucoup et Facebook. Et si vous n'êtes pas allé sur Facebook, vous pouvez venir sur Facebook officiel. Et puis, moi, je suis pour l'interaction avec les lecteurs. Je suis pour que vous me rappeliez ce que j'ai dit, ce que je dois faire. Puis, je suis conscient d'une chose, c'est que je dois beaucoup à mes lecteurs. Et que sans eux, j'existerai pas. Et en tout cas, je serais obligé de faire un métier normal et dans lequel il faut travailler. Et donc, je suis très... C'est pour ça aussi que je viens ici. C'est pour les voir, pour voir dans les yeux, pas juste sur Facebook. Et pour vous dire, on fonctionne ensemble. Et mon envie est de vous satisfaire. Et c'est pour ça que je vous dis aussi, si jamais ce livre n'était pas, ne vous plaisait pas, ou il ne rencontrait pas le public, je vois pas pourquoi je ferais la suite. Donc, dans ce cas, je ferais autre chose. Peut-être la mémoire. Voilà. Mais ça va commencer à tourner sous forme de... Autre question ?
Oui, alors on m'explique, ça va être la dernière question, on m'explique que là on est un peu...
Oh, juste quand ils étaient chauds. Ouais. Il faut vous pencher, je crois. Je me lève pour vous encourager. Là.
C'était pour savoir, est-ce que vous partez sur votre roman sur de nouveaux personnages ou c'est des anciens qui apparaissent ?
Alors, cette question, ça me permet de m'avancer un peu. Oui, vous avez le droit de la poser. C'est ça, c'est la famille Edmond Wells. Et ça démarre avec David Wells, qui est le petit-fils d'Edmond Wells. C'est-à-dire qu'il y a Edmond Wells, il a une fille. Cette fille a un fils, qui s'appelle Charles Wells, vous allez découvrir. Et ce fils, Charles Wells, a un fils qui s'appelle David Wells. Et au moment où démarre l'histoire, là vraiment, je ne vous spoil pas trop, mais en même temps, je vous mets un peu dans l'ambiance. Il a 27 ans. Et c'est un biologiste aussi. Et ce que les découvertes qu'on a découvertes dans les fourmis vont trouver une prolongation, mais qui n'est plus en rapport avec les fourmis, une prolongation dans le futur proche. Donc c'est de la prospective, comment dire, c'est une réflexion philosophique sur où on va, vous me voyez encore, c'est une réflexion philosophique sur où on va et où va notre espèce et comment elle évolue, à partir d'une sorte d'élan qui avait été donné dans les fourmis. Les fourmis, c'était il y a 20 ans, donc 20 ans plus tard, je reprends mes personnages. Et donc, on va retrouver l'encyclopédie, ce qui me permet, parce que je sais qu'il y a un public encyclopédie, donc pour eux, voilà, c'est idéal. L'encyclopédie, ce qui est bien, c'est que ça me permet de vous raconter des petites histoires, mais je ne vous prends pas la tête, plus de 10 lignes. Donc comme ça, si ça vous intéresse, si vous voulez frimer le soir dans les dîners, vous pouvez. Mais si vous n'avez pas envie des trucs érudits, vous le sautez. C'est l'interaction, c'est la littérature interactive. Donc on retrouvera David Wells, qui est mon héros, et l'encyclopédie. Et voilà. Et je ne peux pas vous en dire plus.
Mais il se passe des tas de choses, je peux vous le dire. Mais écoute, merci Bernard. Merci à vous.
Attendez. Il y a un film documentaire qui va être passé à quelle heure? Vous savez pas?
16h30.
À 16h30. Donc ce film est fait par un monsieur, je voudrais qu'on applaudisse ici, qui est Stéphane Cross, qui est là, qui se cache. Alors on dit 16h15 ou pas? Est-ce que tu peux te lever, Stéphane? Alors Stéphane a fait beaucoup de striptease, des éditions, et il fait des documentaires fabuleux. Bon, là, le sujet, c'est pas terrible, c'est moi, mais sinon, je vous conseille de suivre son œuvre, c'est un très très grand documentaire. Et donc, c'est 16h15.
16h15 au Palace.
16h15 au Palace. Et après, j'ai une petite conférence. Merci.
Bon. Non, 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 non,